Nécessaire de s'élever en défenseur de la vérité évangélique. Ça va toujours se faire dans l'esprit de Christ et nous garderons sans cesse cette attitude au cours de cet entretien. La tâche de chacun consiste d'une part à examiner toute chose et à retenir ce qui est bon, et à d'autre part, être toujours prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque lui demande raison de l'espérance qui est en lui. Il faut également admettre que personne n'a le droit de se tromper en matière de doctrine et de pratique religieuse. L'apôtre Paul lance aux hommes l'avertissement solennel de ne pas enseigner d'autres doctrines que celles de l'Évangile et de ne pas s'attacher à des fables. Il est une question que se posent nombre de gens de tous azimuts. Les Écritures autorisaient les femmes à conduire des prières durant les cultes publics ou semi-publics en présence des hommes. Notre seul désir sera de partager avec vous ce que Dieu dit dans sa parole, et cela en dehors de tout esprit de clocher ou de tendance théologique particulière. La Bible enseigne que la femme chrétienne ne peut rien faire dans sa vie spirituelle, en public ou en privé, qui la placerait en situation d'insubordination par rapport à ses frères dans la foi. On peut donc aisément comprendre que si elle dirigeait quoi que ce soit dans un culte public ou partie de ces derniers, elle le ferait en violation des Écritures. Il lui est donc strictement interdit, dans l'assemblée, d'enseigner, de conduire des cantiques ou de prier publiquement devant ses frères. Par femme, on entend une chrétienne, et le terme dirigé signifie, dans le cas d'une prière ou d'un cantique, guider, mener les autres dans une conversation publique avec Dieu. Le mot culte comprend tout acte de dévotion posé par une assemblée de chrétiens en vue d'adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le nombre des assistants ou l'endroit où se déroule le culte n'a absolument rien à voir avec l'acte de conduire, de diriger. Dès que plusieurs chrétiens sont réunis, et que n'importe quel acte de dévotion à la divinité est exprimé, on peut parler de culte. Ceci peut inclure la Sainte Cène, l'enseignement, le chant, la prière, la collecte. Voyons maintenant les preuves bibliques de ce qui vient d'être avancé. Deux passages des Écritures du Nouveau Testament sont particulièrement intéressants dans le cas qui nous occupe. Ils sont tous les deux de la plume de Paul et concernent tous les chrétiens, hommes ou femmes, se réunissant pour adorer leur Dieu. Le premier se situe en 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 33 à 35. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Le second passage se trouve en 1 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 12. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il est maintenant utile et opportun d'examiner systématiquement et au plus près les versets que nous venons de lire. Tournons-nous vers le premier, c'est-à-dire 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 33 à 35. Premièrement, notons tout d'abord que Paul spécifie en 1 Corinthiens 14, 37, « Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » L'apôtre n'exprime donc ici ni une opinion personnelle, ni une suite d'idées préconçues. Il s'agit bien du message absolu et revêtu de la pleine autorité de l'Éternel qu'il doit transmettre. Deuxièmement, ce que Paul a écrit ici sous l'inspiration du Saint-Esprit s'applique à toutes les églises des saints. Ceci comprend donc chaque assemblée qui adore et où des hommes sont présents. Troisièmement, lorsque Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, il utilise le verbe siago, au présent de l'impératif, ce qui signifie garder le silence, arrêter de parler.
il n'est donc pas question que la femme ne puisse jamais rien dire. Le Seigneur n'ordonne-t-il pas à tous les chrétiens, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. La femme ne doit-elle pas, elle aussi, confesser sa foi? Mais dans l'assemblée publique, mixte, elle doit demeurer silencieuse, en signe de soumission aux hommes présents, selon que le dit aussi la loi. Quatrièmement, à deux reprises, Paul écrit qu'il n'est pas permis à la femme de parler, car, dit-il, il est malséant de le faire. À nouveau, il nous est rappelé que l'intention de l'apôtre est de diriger dans le bon sens l'activité de l'assemblée adorant Dieu, afin que tout se déroule pour l'édification de chacun avec bienséance et avec ordre. Les femmes pouvaient prier et prophétiser, mais pas dans l'assemblée, car Dieu ne l'autorise pas. Cinquièmement, le principe de base de ce qu'expose l'apôtre Paul se situe au niveau de la soumission ou de la dépendance. L'Ancien Testament disait à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et Pierre s'exprime en ces termes, « Femme, soyez de même soumise à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de la femme. » La femme chrétienne ne peut jamais se trouver dans le culte en position d'insubordination envers les hommes chrétiens de l'Assemblée. Parler de refuser de demeurer silencieuse dans l'Assemblée est l'exemple qui, pour Paul, démontre précisément l'absence de soumission. Voyons maintenant le deuxième passage biblique, 1 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 12. Premièrement, tout d'abord, Paul donne une instruction précise, que les hommes prient. Le mot « homme » utilisé ici dans le langage original est assez spécial car il signifie « homme » en tant qu'opposition à « femme ». En grec, deux termes désignent l'homme. Le premier, « anthropos », inclut tous les membres de la race humaine, tandis que le deuxième, « aner », sert toujours à distinguer les sexes entre eux. « Anthropos » se situe en 1 Timothée, chapitre 2, versets 1, 4 et 5. Mais le mot « aner » est celui qui est utilisé dans « Je veux que les hommes prient en tout lieu ». Ça signifie donc les hommes et non les femmes. Deuxièmement, l'apôtre Paul souligne le fait que non seulement ce sont les hommes qui doivent prier, mais qu'ils doivent le faire partout, c'est-à-dire également dans chaque endroit public où les deux sexes sont présents. « En tout lieu » signifie nécessairement les endroits dont l'audience est mixte, ou alors, il eût été logique de demander que les femmes ne prient pas du tout en privé ou ailleurs. En 1 Corinthiens 11, 5, il est bien stipulé que la femme doit prier. Cependant, en ce qui concerne les endroits publics, l'inspiration divine requiert que ce soit les hommes qui le fassent. Le même point pourrait d'ailleurs s'appliquer à leur rôle d'enseignement de la parole. Troisièmement, je veux aussi que les femmes, voici où commence le contraste entre les hommes chrétiens et les femmes chrétiennes. La distinction de rôle et de situation doit être maintenue de nos jours dans l'Église. Quatrièmement, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. La locution prépositive « en silence » guide la conduite à tenir par les chrétiennes, adorant le Seigneur en présence de leurs frères. Le mot « silence » est en réalité différent de celui examiné en 1 Corinthiens 14, 34, mais sa signification est identique. En 1 Timothée 2, 11, Paul utilise Ezukia, c'est-à-dire demeurer silencieux, ce qui se trouve être en parfaite harmonie avec la déclaration précédente de Paul, à savoir que lors d'un culte réunissant hommes et femmes, c'est à l'homme qu'il appartient de prier. Le silence dont il est question n'explique pas le chant, puisqu'il s'agit alors d'une activité communautaire, commune, au cours de laquelle la femme demeure en parfaite soumission vis-à-vis de ses frères chrétiens. Cinquièmement, Paul fait à nouveau appel au principe de la sujétion en disant « avec une entière soumission ». L'apôtre attribue deux raisons à cette règle. La première, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Autrement dit, la femme a été créée pour être la compagne, le complément, l'aide de l'homme. La deuxième, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. C'est Ève et non l'homme qui s'est laissé séduire par Satan. À cause de ses péchés, Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Sixièmement, Paul dit maintenant qu'il ne lui permet pas d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'il doit demeurer dans le silence. Prendre de l'autorité sur l'homme, c'est s'engager dans un acte de non-subordination, et c'est précisément cela que Paul interdit explicitement. La phrase « sur l'homme » modifie les deux infinitifs d'enseigner et de prendre de l'autorité. Par conséquent, la femme chrétienne commet un péché si elle enseigne aux hommes ou si elle se place dans une situation qui lui donne une quelconque prédominance sur l'homme. L'exhortation expresse adressée aux hommes d'avoir à prier en tout lieu interdit implicitement aux chrétiennes de conduire une quelconque prière devant ses frères en la foi. Selon la Bible, nulle chrétienne ne possède le droit de diriger une prière en présence des hommes chrétiens. Un tel acte lui est interdit par les Écritures. Tout ceci nous apporte des éléments à la fois clairs et définitifs. La nature même de la vérité biblique est d'être constante. Nulle vérité établie d'une manière positive ne peut être démentie par une contre-vérité nécessairement négative. Les objections ne peuvent pas non plus ébranler des vérités assises et absolues. Dans le cas qui nous occupe, aucune argumentation de quelque nature que ce soit ne peut mettre en doute la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, ainsi d'ailleurs que l'évidence même des passages bibliques cités. Soyons persuadés que pour chaque situation et pour chaque acte de conduite se présentant dans un culte public, la femme chrétienne doit demeurer silencieuse. Il s'agit de la marque même de sa subordination à ses frères chrétiens. Paul dit bien que ceci inclut l'enseignement et la prière. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence.
Alléluia, alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom, qui ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Père et le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul, ses enseignements et ses deux apôtres font autorité de nous. Parlons de ce que la Bible dit et de nos silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions, de ce que vous venez d'entendre, et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition. Sans engagement, écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086, Toulouse, Cedex. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086, Toulouse, Cedex, France.